Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h05, on y revient au Mastic, on est dans le Super Moscato Show, vous le savez qu'on est sur RMC. Tous les jours on est là de 15h à 18h, mais ça vous le savez parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, on vous en remercie. Écoutez, la rouquine, Carmélite, Sarah Poutowski, comment elle va?
Très bien Vincent, bonjour à tous.
Ça va?
Oui, mes nuits sont courtes, mais pas pour les raisons pour lesquelles vous le croyez.
Ce qui est bien, c'est que Sarah connaît tellement bien la bête qu'elle désamorce à l'avance. Tu vois,
mais c'est l'Open d'Australie, donc ça joue la nuit, tu vois.
C'est ça. Mais je croyais que tu sentais une deuxième jeunesse. Là, que tu avais repris le manche pour une tennisman, ma foi, c'est quand même c'est normal.
Là, je te laisse tout seul.
The Flower from Cahors. Qu'est-ce qu'il dit, Denis? Toi aussi, t'as repris le manche?
Les nuits sont longues, Denis.
Non, Pierrot, il met pas.
Parce que toi,
non, au contraire, je dors très bien. Franchement, je dors très bien. Ouais, alors, il y a le chien qui me réveille.
Il dort avec Coco.
À 5h du matin pour aller faire un petit pipi, ça c'est normal.
Mais quand tu le lis pour toi tout seul, tu peux dormir
après,
à travers.
Ce ne sera pas le chien qui se lèvera à 5h du matin.
Le chien, c'est le plus pissoli. Le chien est pissoli.
Non, mais quand même.
Il a 12 ans, 13 ans.
C'est connu.
Par contre, tu dors avec le chien, fais gaffe, il a une haleine de poney. Ton chien doit être réveillé. Des fois, quand tu as le museau contre le tien, les chiens, ils ont des haleines de poney.
Ils se lèvent pas.
Ils ont des haleines de poney. Parfois, le samedi soir, je connais un Adrien. Il a une belle haleine de poney.
Oui. Comment ça va? Plutôt le dimanche matin, du coup.
Toujours. Qu'est-ce qu'il dit?
Toujours des petits chewing-gums à la menthe sur soi.
Toujours.
Ça et la boîte d'allumettes. Ne l'oublie pas, la petite boîte d'allumettes.
Un jour, on vous expliquera avec Vincent, avant 18h, pourquoi la boîte d'allumettes. C'est Vincent qui vous expliquera pourquoi. Toujours.
C'est un jeu. Essayez de savoir pourquoi la petite boîte d'allumettes, ça sert à quelque chose.
C'est une énigme. Vincent m'a enseigné ça au tout début.
C'est une énigme. Vous pouvez appeler au 32-16.
Alors, indice chez vous.
Oui, il faut une allumette, en fait.
Vincent m'a enseigné ça. J'avais une vingtaine d'années. C'était il y a 20 ans. Et de temps en temps, on sortait un peu le soir. Mais de temps en temps, il m'avait dit Adrien, il faut toujours que tu aies une boîte d'allumettes sur toi quand tu sors dans les bars samedi soir. Essaye de réfléchir pourquoi.
Ne dis pas plus.
On vous donne rendez-vous à 17h45 avant le Kikadi. Allez,
je connais cette astuce depuis très longtemps.
C'est une technique ancestrale.
Je ne veux pas jouer.
Qui évite des petits moments de honte. Donc, question moyenne. C'est une semaine extraordinaire. On a les dirigeants du rugby français en plateau là aujourd'hui. Il y a l'Open d'Australie. Il y a la Ligue des champions de foot. La question moyenne du jour, c'est la Ligue des champions de foot. Quel est le plus probable dans les 20 ans qui arrivent? Dans 20 ans, on fait le bilan. Le PSG aura gagné 3 nouvelles Ligues des champions.
3 de plus.
Ouais.
3 de plus. Donc ça ferait 4.
Ouais.
Minimum.
En 20 ans.
Dans 20 ans, Paris, à son palmarès, aura 3 Ligues des champions en plus.
De la fin de l'année.
Ou l'OM aura gagné une nouvelle Ligue des champions.
Mais tu nous l'as déjà posé, cette question. J'étais là.
Non, c'est pas exactement la même, Sarah. Ta réponse.
Attention à l'Arabie Saoudite.
C'est ça l'Arabie Saoudite qui prend les affaires à main ou l'Iran.
Sachant que Paris a mis quasiment 20 ans à la gagner avec le Qatar, il n'y a pas d'assurance.
On ne peut pas répondre à ta question.
Si, moi je réponds 3 ligues.
3 ligues des champions pour le PSG. Attention au Qatar qui peut partir aussi. Parce qu'on parle.
Oui, mais alors
s'il peut aller à Marseille.
Non, on part du principe qu'ils sont là quand même.
Et on y assistera parce qu'on aura des places de Florent Grill.
Stéphane, ça rapide comme ce qui.
Rien à voir avec le schmilblick.
Vas-y.
C'est mathématique. Je pense que c'est plus facile d'en gagner une que d'en gagner trois.
Ah bon,
ouais.
Je suis pas sûr.
Pierrot d'Orient.
C'est très dur. Parce que 3 en 20 ans, ça me paraît impossible. Parce que l'air de rien, c'est hyper dur. Tous les 7 ans, je signe, sans problème. Et l'OM, au moment où on se parle, ils ne peuvent pas envisager la gagner.
Si t'as un gros investisseur qui arrive,
Mais ils sont qualifiés cette année.
Il faut imaginer les circonstances, les rachats, les démissions.
Mais même si un grand qui arrive, un grand investisseur à Marseille, il y a des embrouilles qui auront.
Paris la gagne cette année.
Ils se débrouilleront pour la gagner.
3
d'accord.
Fois de plus. Allez.
Eric Dimeco répondra à cette question cruciale.
Non, je connais sa réponse.
Vous répondez à 70% le plus probable quand on fera le bilan dans 20 ans. Pierrot, à son palmarès, il y aura 4 Ligues des Champions.
Ce sera bien.
Pour Paris Saint-Germain.
C'est bien, ça fait un beau palmarès.
C'est un joli palmarès. Bravo, Pierrot.
Alors, le PSG, on en parle à 17h. Les planètes vont-elles de nouveau s'aligner? Voilà. Est-ce que ça va partir exactement comme l'an dernier? Les lunes, dit-on dans le Moscato Show. On parlera aussi de l'OM. L'OM en passe de faire signer un crack. Attention.
Attention.
Un craquito de plus en Ligue 1. Vincent, rendez-vous 16h30.
Un cracker.
Et puis, sur le foot français, restez bien à 17h30 pour écouter Pierre Sage. Pierre Sage, on a l'impression qu'il est tout timide, tout timoré.
Eh ben non.
Vous allez voir une autre facette de Pierre Sage à 17h30. Avant cela, donc, comment le 15 de France va-t-il devenir champion du monde? Nous avons les deux présidents, Florian Grill et Yann Roubert pour la Fédé et la Ligue.
Ils ont un plan.
Ils ont un plan. Et ce plan, on va l'expliquer dans le Moscato Show. C'est l'agence Tourisque, bon. Vincent.
Bon, non, mais
et on démarre avec le
c'est
tennis.
C'est drôle de dame.
Le tennis mondial se résume-t-il à un duel Alcaraz-Sinner? Dans le Kikadi, ce cadeau pour ceux qui ne maîtrisent pas bien l'informatique. Très beau cadeau, un PC portable Altic de 16 pouces, garanti 3 ans. C'est une marque française installée à Nantes avec un ancrage local. Kikadi par SMS au 732-16.
La difficulté, c'est qu'ils ne le vendent qu'à des mecs qui ont 16 pouces. Ils ne maîtrisent pas trop bien l'informatique.
Et puis, on a un très beau cadeau. L'expérience RMC vous offre PSG Newcastle. Pour tenter votre chance, vous devez attendre cette alerte. Et dès que ça retentit, vous envoyez PSG par SMS au 732-16 à gagner le match, les émissions avant et après. Et puis, bien sûr, deux places pour y aller avec la personne de votre choix. Journal moyen.
Alors,
Adrien.
15h45. Je ne m'attendais pas et je sais que ça et je sais que Sarah, tu vas t'intéresser au sujet. Tu m'aimes déjà au courant, je pense. La famille Beckham se déchire. Le fils attaque son papa et sa maman.
Oui,
il a 26 ans. Il n'est pas content. Il tue le père et la mère. Là,
de
le
c'est l'âge de
l'héritage.
Rendez-vous 15h45 et vous adorez ça.
Il n'était pas sur la photo de famille de Noël d'ailleurs.
Mais pas invité.
Mais oui,
pas invité, ça.
Et je pense qu'ils, sais quoi, ils se sont même désinscrits de son compte Instagram.
Mais comment va-t-il survivre? Mais qu'il y a des malheurs dans le monde. Je te dis.
On a la même passion, c'est ça.
Exactement.
Allez, tout de suite.
Il va y en avoir un beau là. Il va y en avoir un beau. On va en parler tout à l'heure.
Le tennis mondial, ça se termine toujours de la même manière.
RMC, le Super Moscato Show.
C'est gagné pour Carlos Alcaraz à l'issue du final parfaitement maîtrisé.
Moi, le premier, j'aurais jamais mis un pompec, c'est ça?
À l'image de cette partie et de ce tournoi.
Je vous dis, j'ai pas de regrets. Moi, j'ai un regret.
Yannick Sinner, beaucoup trop solide.
J'aimerais voir si Alcazar va le titiller.
Alcaraz. L'impensable s'est produit à Melbourne.
Mais surtout, ce qui va être important, c'est surtout du dur.
Quand tu joues sur terre battue, il y a peut-être une addiction à l'odeur, au fait de marcher dessus, le toucher avec les pieds, tout ça. C'est...
Yannick Sinner élimine Novak Djokovic.
Il a dit, je sais pas, mais vous vivez ferré, mais je crois que j'ai gagné le dernier match sur terre battue.
C'est fini, et c'est Carlos Alcaraz qui conserve son titre à Indian Wells.
Je veux dire, il y a un adversaire en face et ça. Voilà, moi j'aime. C'est super comme sport.
Breaking news!
Celui qui a cherché cette interview là, c'est
oui.
Toi.
C'est
toi, oui.
Non,
pour une fois que j'ai échappé.
Non, mais c'est vrai que c'est super.
C'est catastrophique, oui.
Pour ceux qui nous écoutent, je pense que le nombre d'heures d'antenne que chacun fait, on peut excuser ce genre de choses.
Mais on peut aussi en rire.
Ça se compte en millions d'heures, en fait, depuis le nombre d'années que vous êtes à l'antenne.
Ça n'a rien à voir.
Et l'âge faisant, ça n'arrange rien.
Avant d'accueillir Eric Salion en direct de Melbourne, donc tout à l'heure, Yannick Sinner a dévoré Hugo Gaston qui a abandonné après 2-7, 6-2, 6-1. On voit pas trop qui pourrait l'empêcher d'aller en finale, pas même Djoko ni Shelton. Et on en dirait autant dans le haut du tableau pour Alcaraz. Ce duel, il est passionnant. Il nous offre des matchs épiques, mais finalement, l'intérêt des tournois se limite-t-il des grands tournois à la confrontation Sinner-Alcaraz. 32-16 ou Twitter hashtag RMC Live. Eric Salio, bonjour.
C'est Salio.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Eric.
Oui.
Bonsoir.
Eric Salio qui est à Melbourne. Eric, où en sont les autres têtes de série? Parce qu'on va débattre de Sinner et Alcaraz. Pour qu'il y en ait un troisième, il faut que quelqu'un émerge dans ces tableaux-là.
Oui, alors je me suis amusé à éplucher le tableau pour recenser les joueurs qui ont déjà gagné ou atteint une finale de Grand Chelem. Ils sont 7. Alors je mets de côté Stan Wawrinka, parce qu'à 40 ans, le Suisse, il ne peut plus lutter avec les meilleurs. Que nous reste-t-il ? Daniil Medvedev, double finaliste ici même. Il a quitté le top 10, mais il semble retrouver des couleurs. Taylor Fritz, finaliste de l'US Open 2024. L'Américain ne tient pas la forme de sa vie. Il traîne une tendinite au genou. Il y a évidemment Sacha Zverev, battu l'an passé sur l'ultime match par Yannick Sinner. L'Allemand ne conçoit pas de finir sa carrière sans décrocher le Graal. J'oublie pas Tsitsipas, je suis obligé. Il a déjà connu l'odeur des finales de majeurs, mais le Grec, aujourd'hui, il est 35e. Peut-on encore croire en lui? N'écartons pas non plus Casper Ruud. Problème, l'épouse du Norvégien est enceinte. Et il a dit qu'il n'hésiterait pas à quitter le tournoi si le bébé arrivait. Puis, on en a abondamment parlé hier. Novak Djokovic, un formidable compétiteur. 10 titres à Melbourne. Ça vous place le bonhomme. Il a 38 ans. Voici ma liste des prétendants. J'ajouterai un Américain aux dents longues et aux muscles saillants. Ben Shelton, 7e mondial. Ce type n'a peur de rien.
Ce type n'a peur de rien.
Mais il n'a rien gagné. Son
tu l'as vendu.
Il a surtout rien gagné.
Il a peur de rien gagner. Avant de gagner, il faut passer par là.
Il va peut-être en gagner.
Alors, Vincent, d'abord.
Peut-être en gagner. Et toi, par contre, va acheter des petits mouchoirs en papier. Parce que t'as quand même une sinusite, là, non, quand même. T'as mis le nez à la fenêtre un peu long.
Il y a un 2024 qui n'est pas bien passé. Oui, ouais. C'est pas grave, on réécoutera ça demain. Vincent, il y a deux questions en une. Est-ce que le tennis mondial se résume à un duel Sinner-Alcaraz? Et finalement, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est un problème?
C'est pas très grave, hein. Pierrot, c'est pas très grave parce que de temps en temps, il y en a un qui se greffe. Et puis, il y en a un, bon, c'est pas toujours le même. T'as Zverev, t'as Medvedev, t'en as d'autres qui peuvent se greffer. Pour moi, c'est pas encore peut-être Djoko sur une demi, tout ça. Mais, donc, c'est pas un souci. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été l'affrontement entre Djoko, entre, bon, il y en avait des fois un troisième, des fois peut-être un quatrième Wawrinka qui se greffait, même pas très souvent, mais un peu de temps en temps. Alors,
a,
mais là, ils sont deux.
Il y en avait trois. Il y en avait trois à l'époque d'avant.
Là, il y en a deux, là.
Il y en avait trois. Il y en avait trois, ouais. Il y avait Murray aussi.
Federer, bon, là, il y en a deux.
Oui, mais laisse faire encore un peu de temps. Il y en a un qui va se greffer, qui va gagner un grand chelem et qui va se greffer à tout ça. Un ou deux. Donc, c'est pas un souci. On est là pour voir les champions. Et les champions, on aime les suprématies. On aime les mecs qui gagnent tout. C'est comme ça. Alors, souvent, on dit, ouais, non, mais c'est pas assez distribué. Ben, non, on aime bien quand le PSG, ils sont champions de France. Quand le Stade Toulousain, ils sont toujours qu'ils écrasent tout le monde. Ben, on aime bien ça, le sport, parce qu'on dit, qui c'est qui va pouvoir contrer le Stade Toulousain, qui va pouvoir contrer le PSG? Et bien là, c'est pareil. Qui c'est qui va pouvoir battre Sinner ou Alcaraz? Il faut des têtes de champions. Il faut pas qu'il y en ait beaucoup pour que le sport existe, pour que la dualité existe. Il faut pas qu'il y en ait trop. Si t'en as une dizaine, que les grands chelems ils sont éparpillés de partout, que t'as pas de grands champions, il y a aucun attrait. C'est pas jouissif. Ce qui est jouissif, c'est qui va tomber Sinner, qui va tomber Alcaraz, qui va gagner des deux. Et voilà, et de temps en temps, qui va se greffer au milieu de ces deux-là. Donc moi, pour moi, c'est essentiel qu'il y ait deux, trois mecs, pas plus. Il en faut pas plus. C'est pas possible, tu vois. Le PSG vit trop bien, très bien tout seul. Chaque fois, on dit, ah, le PSG, Marseille peut-être, lance, dans, la sortie, craque, bonsoir Clara. Tu vois, le Stade Toulousain, c'est pareil. De temps en temps, ils perdent, mais c'est rare. C'est comme ça.
C'est comme ça et ça pose aucun problème à Vincent Sarah.
Aucun problème, même c'est mieux.
Non, c'est plutôt la Liga, Alcaraz Sinner. En Liga, en championnat de France, en championnat d'Espagne, t'as le Barça et le Real. Et
ouais.
Tu ne sais jamais qui va être champion à la fin.
Mais ça joue
en rugby, tu sais qui va être champion. C'est ça qui est.
Et bien, Sinner, machin, Alcaraz, tu ne sais pas. Mm-hmm. C'est quand même un truc de.
Toulouse,
Toulouse, non, t'es pas sûr, Toulouse. Toulouse, t'es pas sûr parce qu'il y a une année. Là, maintenant, cette année, je pense que c'est l'année de Bègle. Je pense que Bègle va les taper cette année. Tu vois, le PSG, bon, ils sont en demi-temps, de temps en temps, ils en oublient, hein, bam. Ils ont perdu 3-4 fois quand même en 12 ou 13 ans. Donc, c'est jamais, c'est ça qui fait le
charme.
Sarah, est-ce
que le tennis mondial se résume à un duel Sinner-Alcaraz et est-ce que ça te pose problème?
Alors, ça se résume à un duel Alcaraz-Sinner sur les grands chelems. Je pense que définitivement, l'année 2025 nous l'a montré. En 2024, tu as Taylor Fritz qui s'est faufilé en finale de l'US Open. Ça joue entre ces deux-là. Et quand tu regardes le nombre de points et le nombre de tournoi gagné, ils sont en train de creuser un écart. Zverev, qui est pour moi le meilleur joueur du monde à n'avoir gagné aucun grand chelem aujourd'hui, et je suis pas sûr qu'il y arrive. Lui,
oh,
dit,
c'est
non
terrible.
Mais ah non, je pense que maintenant,
c'est vrai, tu penses?
Ah ouais, je pense que ça va devenir de plus en plus difficile et il a eu des occasions.
28, non?
Ouais, il a moins de 30 ans. Il a moins de 30 ans, Zverev. Mais
le temps passe.
Mais il est là depuis un moment.
Les autres deviennent très bons.
Mais oui, mais parce qu'en fait, il y a eu une génération
28.
Une génération empêchée. La génération empêchée, c'est Zverev, ouais. Effectivement, c'est un certain Tsitsipas qui nous a quand même fait des finales et qui est parti dans les bas-fonds du classement, non, mais qui a pris beaucoup de retard. T'as Rude aussi, Eric le disait. Medvedev, il a été chippé. Il a été chippé un grand chelem, mais c'est un
quand
petit peu.
Quand tu dis génération empêchée par Nadal,
exactement.
Federer,
et donc,
Djoko.
Exactement. Ouais. Et en fait, ces joueurs-là, ils sont restés un peu timorés et tu as deux mecs. Pardon, Sinner et Alcaraz, ils sont bien, bien, bien au-dessus de. Quand tu regardes le top 10, ils sont tellement loin devant. Zverev, il a 5000 points et Alcaraz, il en a 12 000. Ouais. Pour te dire,
Sinner
Zverev.
Double de points du troisième.
Zverev, en 2025, il a gagné qu'un seul tournoi, il est troisième mondial.
Est-ce que Zverev est un faux troisième mondial en vrai? Est-ce que Zverev, entre Zverev et le dixième mondial, il y a un peu plus de 1000 points?
Mais exactement. Et quand tu vois que Musetti, qui est huitième mondial, il a gagné aucun tournoi l'année dernière. Donc en fait, il y a un fossé qui est colossal.
Est-ce que ça te pose problème? Est-ce que ça serait mieux avec un troisième larron?
C'est toujours mieux s'il y en avait un. Après, pour l'instant, comme on est au début de l'opposition Sinner-Alcaraz, ça m'intéresse. J'ai envie de les voir parce qu'ils nous ont proposé des duels tellement
épiques. Les quinzaines de grands chelems ne sont pas un peu longues quand même?
Pas encore. Mais je te dis pas que d'ici un an ou deux, si c'est toujours les mêmes qui sont en finale.
On nous fait remarquer sur les réseaux sociaux par message Ilaï qui nous dit Fonseca, le petit Brésilien, annoncé comme un génie. Est-ce que lui peut arriver très vite?
Mais on en annonce au niveau des deux autres. Mais on en annonce. Attendez. On va voir. Là, il a eu un coup de chaud. Il a du mal à jouer. Hein. Il a eu un gros coup de chaud.
Et t'as
des joueurs qu'on attendait effectivement. Oji Aliassime, il a quand même été un peu décevant. Il a gagné l'année dernière. Enfin là, il perd au premier tour. Donc en fait, ces joueurs manquent en dessous d'eux, ça manque de régularité. Et comme les deux sont tellement réguliers et qu'ils vont choisir leur tournoi, c'est-à-dire qu'ils vont jouer que les Master 1000 et que les Master 1000 et les Grands Chelems.
Denis Charvet. Moi, ça me plaît la configuration. Pourquoi? Parce qu'on voit des matchs qu'on n'a pas vus depuis des années. Ouais. C'est-à-dire qu'on revoit des matchs.
On n'est jamais déçu par les Sinner-Alcaraz.
Non, mais c'est deux extraterrestres pour moi. C'est deux mecs qui sont au-dessus, comme le dit Sarah, bien au-dessus. Il y a un monde entre eux et les autres. Et moi, ce qui me bluffe le plus, c'est mentalement. Ça va très vite, mais quand tu vois Zverev jouer, il va vite aussi.
Zverev a justement un problème mental.
Mais c'est ce que je te dis, totalement soumis aux deux autres, c'est un problème
dans les grands matchs.
Ce qui est fou, c'est qu'ils ont monté le niveau, un niveau mental qui est extraordinaire. Quand tu vois la finale de Roland-Garros, comment ils vont chercher les points cruciaux, tu te demandes comment ils font. Je me souviens, moi, d'un Djokovic Federer à Wimbledon en 2019, où Federer sert pour le match et Djokovic lui fait deux retours incroyables. C'est du même niveau que Federer de Djokovic.
C'est le talent.
Denis, est-ce qu'on peut se lasser? Est-ce que toi t'as un amoureux de sport, ça dure 10 ans que les deux là. Est-ce que tu peux en avoir marre?
Moi j'ai regardé la finale de Roland Garros, j'ai pris mon billet comme tout le monde.
C'est le début.
Mais oui, peu importe. Mais c'est-à-dire que il monte le sport, le niveau du sport.
Si tu l'as à chaque fois, tu te lasses
pas. Est-ce qu'on s'est lassé de Nadal? Est-ce qu'on s'est lassé de Nadal à Roland Garros?
Non, parce qu'au début d'un tournoi,
tu te dis toujours, est-ce que ça va le faire?
Ceci étant, Nadal, parfois, les finales étaient vraiment frustrantes.
Elles étaient frustrantes.
Et juste un truc.
Parce qu'il y avait personne en face.
Voilà. Eric Salio, est-ce que, en fait, on n'est pas dans un moment faible, en tennis? Parce que les deux sont très, très forts. Donc, c'est difficile de dire que c'est une génération faible. Mais derrière eux, est-ce que c'est pas beaucoup moins fort que sur les générations précédentes, quand même?
Essayez qu'on comprenne quand tu
regardes. Oui, moi je pense aussi. Je pense que l'an passé, on s'est ennuyé en deuxième semaine parce qu'il n'y avait aucun suspense. Il y avait très peu de matchs en 5-7. Les mecs sont vraiment trop, trop forts par rapport aux autres. Mais c'est pas plutôt les autres
qui sont trop faibles quand même.
Zverev, quand tu vois jouer il y a 10 ans, Zverev contre Nadal, il fait un match extraordinaire, il se blesse le pauvre.
Il
monte son niveau de jeu.
Mais derrière, est-ce qu'il est revenu à ce niveau-là?
Est-ce que Zverev est au niveau de Murray ou Wawrinka avant?
Oui.
Pas loin.
C'est pas facile. Franchement, c'est difficile les comparaisons. Parce que là, aujourd'hui,
la comparaison Zverev-Murray, je vais avoir ton avis.
Oui, sorti spontanément, t'as dit oui.
C'est vrai, mais non, mais moi je pense que Zverev, bien sûr que Zverev c'est Murray, que c'est Wawrinka.
Je le pense aussi, moi.
Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais les autres sont, je pense, la vérité, c'est qu'on a du mal à le dire. Je pense que Sinner et Alcaraz sont au-dessus de Djoko. Que quand ils étaient plein pot, que Nadal et que Federer, parce qu'ils ont monté le niveau, ah mais si, quand tu vois les finales, quand tu vois leur confrontation,
c'est énorme.
Tu te dis, ils ont monté d'un niveau, mais c'est pas grave. Et puis ceux qui arriveront derrière, peut-être qu'ils monteront d'un niveau où ça redescendra, soit ça monte, soit ça descend.
Voilà. J'ai envie d'avoir l'avis de Sarah. Par rapport à la comparaison entre.
Je pense que ils sont un petit peu plus forts et en fait la comparaison c'est que derrière il y a moins de densité. Donc en fait ils sont moins challengés.
Ouais, mais Sarah,
ils sont
moins challengés. On les jugera sur leur capacité à durer aussi.
Ouais, mais je suis pas sûr. Tu vois, Alcaraz, je suis pas sûr qu'il ait la volonté de durer.
C'est
les objectifs de carrière.
C'est pas banal, quoi.
On n'a pas l'impression qu'il ait la volonté de durer. En tout cas, c'est ce qu'il montre jusqu'à maintenant.
40 barreaux, quoi.
Oui, mais ça, c'est mondial. Une espèce de mépris. Il fait semblant d'être tranquille, qu'il vient s'amuser. Ouais. Tu sais, mais après, il va s'effiler. T'inquiète pas. Cette espèce de boulard, quand t'es jeune, on le connaît par cœur. Non, moi, je suis là. Je suis arrêté à 26, 27 ans. Et puis voilà. Non, ça, c'est des raisons là-bas. Il va jouer jusqu'à 40 ans.
Jean-Claude Killy a arrêté à 24 ans.
Oui, mais là, il faut qu'il paye l'électricité.
Lionel, 32-16. Tu pensais que c'était John McEnroe au téléphone?
J'allais dire Jonathan, mais Jonathan a la réponse sur la boîte d'allumettes. Bonjour Lionel.
Salut les gars.
Alors Lionel, le tennis mondial se résume-t-il à un duel Sinner-Alcaraz?
Évidemment, malheureusement. Évidemment. Après, le débat, c'est lequel? Est-ce que les deux sont plus forts que les anciennes générations ou est-ce qu'il n'y a pas de concurrent?
Non, est-ce qu'il n'y a pas de concurrence?
Eux, c'est le fruit des trois monstres qui ont dominé.
Pourquoi?
Parce que c'est parce qu'il y a eu Nadal que Alcaraz est arrivé. Quand Alcaraz est arrivé, la première fois, il n'arrivait pas à battre Nadal. Puis après, il a réussi à l'attraper une ou deux fois. Bon, il n'y a pas de concurrent.
Ogier Aliassim aussi, il a rêvé de taper Djoko. Mais et puis, il n'est pas aussi fort que Alcaraz ou Sinner. Hein.
Non mais le débat, c'est les concurrents. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il n'y a pas de concurrents parce que, d'un, ils ont abdiqué, et de deux, ils ont un manque technique évident. Et évident, je veux dire.
C'est mental, c'est pas que technique, je ne suis pas d'accord avec toi.
Ils sont très limités.
Mais toi, par exemple, sur ce qu'on disait, Lionel, tu mets Zverev en dessous de Wawrinka, par exemple, toi, de l'époque?
Pardon?
La question que je posais à Sarah, Zverev, qui est, on va dire, le numéro 3 actuel, est-ce que tu le mets au niveau de où se trouvait Wawrinka, par
Murray
exemple,
il y a
8-10 ans?
Il a combien de grands chelems, Zverev?
Zéro.
Voilà, Wawrinka, vous pensez qu'en finale contre Thiem, à 2-7-0, il perd le match?
Oui, non, mais c'est mental, donc on parle bien de mental.
Wawrinka et Zverev, que ça soit pas la même table. Zverev, il a toutes les cartes en main pour être très bon. Sauf qu'au moment de faire la différence, il n'y arrive pas.
Oui.
Donc ça s'arrête là, malheureusement. Il y a... Mais bien sûr. Et les gars, en fait, ils ont abdiqué avant même que ça commence. Donc les deux, Sinner et Alcaraz, ils sont sûrs de leur force. Et en fait, le plus faible des deux, c'est Alcaraz, pour une seule raison, c'est mental.
Merci beaucoup Lionel. À 16h30, merci, vous écouterez Lionel. Gaël Monfils, qui a disputé son dernier match à l'Open d'Australie ce matin.
N'oublions pas que Julien Benneteau a battu Djokovic.
Oui, exactement.
Oui.
Dans un instant.
Ça veut dire que Djoko n'était pas au niveau, c'est le pompe. Voilà, tout simplement.
C'est le cri de gueule de Vincent Moscato. Supporter marocain, réjouissez-vous, vous avez remporté la Coupe d'Afrique des Nations.
À tout de suite. 27, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h32, le Super Moscato Show. On y revient, bien entendu, au mastic. Denis Charvet est avec nous. Sarah Piposki, Adrien Aiguet, Pierrot, dans demi-heure. La casse, c'est le programme.
Dans une demi-heure, les deux présidents de la Fédé de la Ligue de rugby, Florian Grill et Yann Roubert, nous présentent le plan pour être champion du monde de rugby
boss, là,
en 2027 et en 2031. Attention, parce que la convention, elle va jusqu'en 2031. C'est bon,
moi,
ça.
Je suis content parce que je vais te dire, on a tout fait, et moi en premier, pour que Florian Grill soit quand même le tour.
Florian. Quand il arrive, tu ne fais pas autant.
Je ne veux pas le dire.
Mais il est en gros devant toi. Florian.
Je ne veux pas le dire, Florian.
C'est à 16h.
Monsieur le Président, tu l'appelles, Président.
Mais d'abord, on revient sur la finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
RMC, le cri de gueule du Super Moscato Show.
Il y a eu ce finish incroyable, ce finish tendu quand même, hein, entre le Sénégal et le Maroc. C'est le Sénégal qui est sacré, mais pour toi Vincent, c'est le Maroc qui a remporté la finale de la CAN.
C'est quand même incroyable ce football. Alors c'est le bordel en Europe, l'arbitrage c'est catastrophique, tout le monde s'en plaint, donc il doit bien y avoir une raison. Je suis pas spécialiste, mais même moi des fois je vois des fautes, des hors-jeux, des trucs comme ça. Là les mecs appellent pas le VAR, ils ont du matériel machin, mais il paraît qu'on peut pas arbitrer au football, c'est différent, il y a trois règles, on peut pas arbitrer, bon, c'est pas le problème. Et puis il y a des règles, il y a d'autres règles, c'est du civisme, de l'éducation, c'est-à-dire que quand tu fais une composition, une interrogation écrite à l'école, tu quittes la salle, et ben t'es disqualifié. En boxe, tu t'en vas pas, au deuxième round, tu t'en vas, ben t'es disqualifié. Enfin, c'est l'éducation, c'est le truc. Et là, on a le Sénégal, hein, qui commence à chialer pour une erreur d'arbitrage, et qui se casse pendant 19 minutes, l'arbitre dit rien. Que dalle, c'est rien. Ils reviennent, alors on les supplie, revenez, c'est la finale, un foutoir, une canne avec un arbitrage, t'as compris, c'est la quatrième division. Ils reviennent, et ça rejoue, ils sont champions pour moi, mais ils sont disqualifiés. Qu'à partir du moment où tu fuis le combat, t'es disqualifié. Je ne comprends même pas que l'arbitre n'ait pas pris le... Mais les arbitres, ils sont nazes, la plupart. T'imagines en plus la CAN en Afrique et tout ça, ça doit être... L'arbitrage, ça doit être une horreur, ça doit être...
Donc, en tout cas, ils étaient sous pression depuis le premier jour de cette CAN.
Hein. Oui, ils étaient sous pression, mais comme tout le monde est sous pression, un arbitre qui fait le championnat de France est sous pression.
Alors, pas tout à fait, parce qu'on a raconté à longueur de journée que le Maroc allait être avantagé.
Ils étaient champions.
Donc, quoi qu'il arrive, pour l'arbitre de la finale, c'est un cauchemar. De toute façon, hein, le contexte n'est pas favorable.
Mais peu importe, le contexte n'est pas favorable. On ne va pas les excuser. C'était un foutoir terrible.
Je ne trouve pas que l'arbitre soit le premier à incriminer quand même. Je trouve pas.
C'est-à-dire, moi, c'est le directeur de jeu. D'accord, mais enfin, la conséquence, c'est le directeur de jeu qui ne prend pas ses responsabilités.
Alors, justement, est-ce qu'il aurait pu le faire, le Maroc doit être champion. Jérôme, voilà. Si on nous fait un point sur le règlement.
Salut Jérôme.
Juste une petite Jérôme. Précision.
Salut, moi,
les 19 minutes, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où le pénalty est signifié et le moment où il est tiré. Donc, ce n'est pas exactement 19 minutes où ils sont hors du terrain. C'est un peu moins que ça, mais bon, c'est une précision qui ne change pas grand-chose à la vie de Vincent. Jérôme, quel est le règlement ?
Alors, les articles 64 et 82 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations prévoient, je cite, « Si une équipe refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et définitivement éliminée de la compétition. » Le problème, c'est que dimanche, toute l'équipe du Sénégal n'est pas rentrée au vestiaire. Sadio Mané et plusieurs autres de ses coéquipiers sont restés sur la pelouse pendant ces fameuses 19 minutes d'arrêt de jeu avant que l'ancien attaquant de Liverpool n'intime à toute l'équipe de revenir finir le match. Les Sénégalais n'ont donc jamais officiellement notifié qu'ils quittaient le terrain. Le Maroc n'a d'ailleurs pas déposé de réserve sur le moment. Quant à l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala, selon la loi 12 du règlement du foot mondial, il aurait même pu exclure les joueurs pour avoir quitté délibérément la surface technique et signifié leur désapprobation. Mais Ndala ne l'a pas fait. Le résultat de cette finale de légende a donc été entériné et homologué. Impossible de retirer au Sénégal son titre de champion d'Afrique. Néanmoins, les Lions de la Teranga peuvent s'attendre à de lourdes sanctions. La fédération marocaine et son puissant président Fouzi Legja ont porté plainte auprès de la CAF, reprochant aux Sénégalais leur volonté de quitter la pelouse. Hier, Gianni Infantino a fermement condamné le comportement de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique. Il est inacceptable de quitter le terrain de cette manière. Le président de la FIFA a appelé les instances disciplinaires compétentes de la CAF à prendre les mesures appropriées. La CAF a donc ouvert une procédure disciplinaire. Le sélectionneur Pape Thiaw et certains joueurs risquent de 4 à 6 matchs de suspension, mais on ne sait pas encore si ces suspensions pourraient concerner la Coupe du Monde, donc le France-Sénégal du 16 juin prochain.
Tout dépend de savoir si
les sanctions sont limitées à la Confédération africaine ou si elles sont supranationales et appliquées au niveau mondial.
Mais la CAF,
on peut quand même féliciter Sadio Mané, qui est un grand joueur et qui s'est comporté comme un grand joueur. Au moins lui n'a pas raté sa finale.
Il y a un autre point du règlement qui aurait pu être mis en en place, c'est qu'il y avait des débordements qui étaient en train de se faire dans les tribunes. Des débordements où, d'après ce que j'ai lu, parce que les caméras le montraient pas, mais il y avait des spectateurs qui étaient à deux doigts d'envahir la pelouse.
C'est certainement la défense que vont plaider les Sénégalais en disant notre sécurité était plus.
Tu fais rentrer tout le monde.
Après, faut pas être hypocrite. Les Sénégalais, ceux qui sont sortis, ils sont sortis pour protester contre la décision de l'arbitre.
On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que il y avait des échauffourées qui étaient dans les tribunes, il y avait des projectiles qui étaient jetés et on lit qu'il y avait des spectateurs qui étaient prêts à descendre sur la pelouse. Normalement, tu dois arrêter le match.
Sarah, parce que le problème, si tu arrêtes le match, il se passe quoi derrière ?
Non, tu arrêtes le match, tu le suspends, tu fais rentrer tout le monde et ensuite de ça, tu fais revenir. C'est ce qui se passe chez nous.
Est-ce que tu es d'accord avec Denis, Vincent,
t'es pas là pour protéger
Je pense que le Maroc a gagné. Le règlement, il est clair. Parce que quand je pense que tu nous dis qu'il y a une certaine partie de l'équipe qui est rentrée.
C'est un flou, en fait.
On s'en fout. Ceux qui sont rentrés, ils sont sortis, ils ont abandonné.
Au minimum, tu reprends le match, ils sont trois à être restés. Je joue contre trois.
Match perdu.
Normalement, c'est match perdu. Mais encore une fois, pourquoi j'en veux l'arbitre ? Parce que l'arbitre n'a pas pris ses responsabilités. Oui, parce qu'il s'est fait caca dessus.
Il a eu peur. Il a eu peur, l'arbitre.
Tout le monde a peur.
Mais il y a eu un laps de temps avant que ce pénalty soit tiré. Si ce pénalty n'est pas autant de temps à être tiré, peut-être que les Sénégalais ne sortent pas du terrain.
Si, c'est un chaos.
Il y a eu un moment de réflexion.
Le chaos a commencé quand l'arbitre a été appelé par l'arbitre vidéo. Puisque tu as bien vu que quand il visionne les images, derrière lui, c'est déjà bordel pas possible. Terrible. Donc de toute façon, après, il aurait pas pu, il maîtrisait plus l'événement.
Pour que le match soit arrêté, il aurait fallu que l'arbitre, voyant certains joueurs sénégalais rentrer au vestiaire, se dirige vers les joueurs en leur demandant « Ok, vous rentrez au vestiaire, par contre, vous perdez le match. »
Alors on nous écoute, ça fait énormément réagir. La position de Vincent Moscato, je vous le rappelle, le Maroc a remporté la finale puisque le Sénégal a abandonné la rencontre. Hugues nous écoute et appelle au 32-16. Salut Hugues.
Oui, salut Vincent, salut tout le monde. Je suis trop content, c'est la première fois de participer.
Bienvenue.
Je sors du travail. J'ai tellement apprécié l'intervention de Vincent. Je suis trop content de répondre à ce qu'il vient de dire.
Très bien.
Vous savez que dans le football, on a besoin de gens qui sont là pour jouer au foot. On n'a pas besoin des gens qui sont là juste pour que voilà, il y a un problème d'arbitrage. On est tous rentrés aux 20 ans. C'est la première fois de voir ça dans l'histoire du football mondial. Et ça se fait pas. Et moi, j'ai pas toléré cet acte. Ça mérite vraiment une grosse sanction de la part de FIFA, que ce soit de la CAF. Et je donne tout à fait raison à Vincent, parce que s'ils ont quitté le terrain, ils n'ont plus le droit de le jouer. Et l'arbitre, il a le droit de déclarer Maroc en tant que vainqueur de cette compétition. Et moi, mon point de vue par rapport à ça, ça ne se fait pas. Que ce soit même l'entraîneur, que ce soit même les joueurs qui sont premiers à rentrer au vestiaire, ils méritent une grosse sanction de la part de FIFA, que ce soit de la CAF. On n'a jamais vu ce genre de trucs comme ça, dans la Coupe, dans le UEFA, ou que ce soit Ligue des Champions, ou Ligue Européenne. Jamais. C'est la première fois de voir ça, et je n'ai pas toléré.
Très bien, c'est clair.
On parle, Hugues, de justice. On ne fait qu'en parler de justice, parce que ça, c'est le grand mot à la mode de la justice. Mais là, c'est une injustice. Tu peux leur mettre toutes les sanctions. Le Maroc aura perdu quand même. Ce qu'il y a de plus important, c'est le titre, quand même. Tu peux mettre des sanctions financières, des sanctions, les mecs, 6 matchs, 8 matchs, 10 matchs. Mais qu'est-ce que ça vaut par rapport à un titre? Ça ne vaut rien.
Merci à Hugues et merci à tous ceux qui ont appelé, parce que c'est vraiment un sujet qui fait sensible, beaucoup réagir, très sensible, c'est incroyable. Hein. Ouais. Tout le monde a son avis, en tout cas sur la question. Bravo Vincent pour cet excellent cri de gueule. Journal moyen, dans un instant.
Rien ne va plus,
comme le dit. Vous savez, c'est un métier.
Comme le dit Vincent, comme le dit parfois Eric aussi, rien ne va plus dans le monde dans lequel on vit. On les croyait parfaits, on les croyait vivre une vie heureuse. La famille Beckham se déchire. Sarah Pitkowski, j'espère que tu vas me soutenir dans ce combat parce que je suis très déçu. Et puis, il y a trois sportifs français dans le top 100 des sportifs les mieux rémunérés, les mieux payés en 2025. Il y en a un, vous ne l'avez pas, c'est sûr.
Sarah Pitkowski, dans le top 100
des sportifs les mieux payés au monde.
Vincent, c'est Gobert ou autre comme ça. Réponse dans quelques secondes. 15h42, le Super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
15h47, on y revient au Mastic, on est dans le super Moscato Show sur RMC, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouet, première édition.
La première édition, l'actu, la culture, les médias, les cagoleries, Sarah, qu'on adore. Ouais. La famille Beckham est dans la tourmente. Brooklyn a décidé de se fâcher avec Victoria et David. C'est pas fâché avec sa famille.
Tu t'appelles Brooklyn, t'imagines, Vincent.
Trois Français dans le top 100 des sportifs les mieux payés en 2025. Tout revenu confondu, je précise, tout revenu confondu. Salaire et tout ce qu'il y a autour, les pubs, les sponsors, les contrats divers et variés. Et puis, si on a le temps, on partira sur la Lune, parce qu'elles sont bien alignées en ce moment, Vincent.
Ah bon, oui.
Vous écoutez RMC, c'est le 2496e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
Une famille de stars très connue dans le people et le foot se déchire.
Demain, j'ai la chance de rajeunir de 20 ans ou de 25 ans. Je joue là, et on me met Beckham en face. Mais tu rigoles, le premier ballon qui touche, mais ouais. Il manque un genou, il manque un bout.
Eh oui, Eric. Oui. Du rififi chez les Becks, comment ils appellent, la famille Beckham. Et tout se passe sur la place publique, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Brooklyn Beckham, 26 ans, fils de Victoria et David, a publié un terrible message. En gros, le message, la phrase la plus forte, je ne veux pas me réconcilier avec eux. Il accuse papa et maman d'avoir essayé de saboter sa relation avec son épouse, avec qui il est marié depuis 2022. Elle s'appelle Nicola Peltz Beckham. Mes parents, dit-il, ont essayé sans relâche de ruiner ma relation depuis avant mon mariage, et cela n'a pas cessé. Je ne me laisse pas contrôler, je me défends pour la première fois de ma vie. Je ne veux pas me réconcilier avec mes parents.
C'est un peu tard.
Ma mère, par exemple, il en veut à sa mère. A annulé la confection de la robe de mon épouse à la dernière minute, alors qu'elle était très enthousiaste à l'idée de porter sa création. Elle a dû trouver, Vincent, une robe en urgence. Ses parents, elle accuse ses parents d'avoir manqué une fois de plus de respect à sa femme, puisque, attention, David fêtait ses 50 ans. Elle n'a pas été conviée à la fête. Écoutez la dernière phrase, et là tu sens qu'il y a un règlement de compte sur la vie qu'il mène peut-être depuis une vingtaine d'années. Ma famille accorde plus d'importance à la promotion publique et au parrainage qu'à toute autre chose. La marque Beckham passe avant tout. Pour l'instant, David et Victoria n'ont pas réagi, puisqu'évidemment, toute la presse du monde entier a essayé de les contacter. Pour l'instant, c'est silence, Vincent. Alors, Nicola, l'actrice est une actrice américaine, l'épouse de Brooklyn. C'est la fille de l'homme d'affaires milliardaire Nelson Peltz et de l'ancienne mannequin Claudia Schiffer. Non, Claudia Effner, pardon. Claudia Effner, pas Claudia Schiffer.
Non, mais le problème,
c'est bizarre. Il a rencontré une fille de milliardaire, sûrement par hasard.
Il épouse une gueuse.
La première chose, c'est qu'elle n'est pas arrivée dans la famille pour prendre l'argent des Beckham.
Ah
c'est
non,
une chose.
Voilà. Ils sont même peut-être plus riches que les Beckham. Bon, voilà.
Mais ça fait un moment que ça dure.
Est-ce que ça va s'arranger, ça?
Non, ça ne va pas s'arranger.
Ok, merci, Sarah. Voilà, c'est ce que vous voulez savoir.
Ça ne va pas s'arranger.
T'es au courant, ça?
Non, j'ai suivi comme Adrien.
Sincèrement, vous m'embauchez. Je n'étais pas au courant. Je vais tout de suite me tenir. Tu vas parler à ma femme et à mes filles.
50 ans, il est beau, David, à 50 ans quand même. Hein.
Ah ouais.
Il a l'âge de Fred Pouillet, par exemple.
Ah ouais. C'est marrant, ça fait pas le même.
Fred, il se bonifie en
depuis que c'est la muscu, Fred, ça va mieux.
Vincent, quand même, 26 ans, le fils Beckham, c'est un peu tard pour faire son Oedipe quand même. Il passe ça il y a 10 ans, quoi.
Il n'y a pas d'âge, je crois.
Il n'y a pas d'âge, mais bon, c'est mieux si tu fais l'ado, quoi.
Ça, c'est les familles de Flamme Mireille. Ça va être un flamme. Mireille.
Qu'est-ce qu'il fait, ce mot en crime dans la vie d'ailleurs?
Il est acteur,
il est un peu influenceur.
Il est mannequin.
Il n'a jamais rien branlé. Écoute-moi, une baffasse, pleine bouche. Voilà, c'est ce qu'il lui fallait.
Sans transition.
Non, écoute-moi, bravo.
Belle recherche. Bravo Brooklyn.
Ouais, bravo Brooklyn. Voilà.
Notre grand classique.
J'aimerais bien rencontrer lui.
Les sportifs vont
le voir, Narbonne peut-être.
Et le couple là, Brooklyn et la gueuse là.
Nicolas.
Oh là 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 là, ça doit être quelque chose les deux là.
Je pense que David doit être un peu déçu parce que David, c'est un homme du peuple là-bas.
Ça finit à l'hôpital psychiatrique, ça c'est sûr.
Notre grand classique pour la suite, les sportifs les mieux payés au monde. Jingle, mieux payés au monde.
Je suis à bloc, moi, de défiscalisation, je peux plus balancer le tulle.
Moi, les histoires d'argent, ça ne m'intéresse pas.
Bon, 140 plus 290, 520.
Ah. Non. Le site Sportico, spécialisé, c'est une référence, a publié le classement des sportifs les mieux payés au monde en 2015. Alors, je précise.
En 2015
En 2025, pardon, l'année dernière, l'année qui arrive. L'année qui vient de s'achever. Je précise, salaire et également, on ajoute tous les contrats pub, sponsor, partenariat, etc. Qui est l'athlète en 2025 qui a reçu le plus de sous selon vous?
Bah, 260
millions
golfeur.
De dollars. Non,
non,
Denis,
un pas français.
De...
Ronaldo.
Non, non, dans le monde. Dans le monde.
Laurent Serra.
Cristiano.
Laurent. C'est Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.
Ok.
Cristiano Ronaldo, 260 millions de dollars.
Vincent, mais je t'ai dit la première chose, je t'ai dit Ronaldo.
Le deuxième, selon vous, est.
Messi.
Non, pas du tout. Messi est troisième avec 130 millions de dollars. Le deuxième, c'est pas un sport collectif, c'est pas du golf.
C'est du baseball.
Non.
Verstappen.
Il est mexicain.
Ah, c'est du.
C'est la boxe. De la boxe.
Box. Ouais. Canelo Alvarez. Canelo. Voilà. 137 millions de dollars. Quatrième, c'est un joueur de baseball. Juan Soto. 129.
Juan Soto, oui.
Pierrot, ton sport, le basket. Cinquième, LeBron James.
C'est le mec qui présente à la télévision sur la 2, non,
et attention, sixième. Il y a trois Français dans le top 100. Sixième. Eh ben,
Gobert.
Non,
non, sixième, Wemby.
Mais non, c'est Karim Benzema. Ouais, 115 millions de dollars en Arabie Saoudite.
Ah ouais, là-bas, oui.
Ça fausse le
deuxième français, le deuxième français est 12e, il s'appelle Kylian Mbappé.
Ouais.
95 millions de dollars. Et alors lui il est loin, hein, 84e, Rudy Gobert.
Imagine-toi que Rudy Gobert est dans les 100 mieux payés sportifs au monde.
Oui.
C'est combien il prend, Rudy Gobert?
Alors, je vous précise que cette séquence est parrainée par l'association de lutte contre la dyslexie, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de noms qui sont rentrés bien comme il faut quand même.
Il y a Lewis Hamilton, Vincent, qui est 11e, Lewis. Il est juste devant Kylian Mbappé, 100 millions.
Ah, mais là, Ferrari, ils ont fait une belle opération avec lui. Il doit chialer tous les jours, le trésorier de Ferrari.
Et puis, quand même, Vincent, dans le top 20, il y a un joueur de foot comme Erling Haaland. C'est dingue, quand même, le foot. 77 millions de dollars. Voilà, Erling Haaland. Il est juste en dessous de Max Verstappen en Formule 1, c'est beau. Hein,
c'est beau.
Ah bah, c'est Verstappen, 83 millions.
Tu gagnes 70 boules par an, ça va, toi. Hein.
Oui, c'est bien.
T'es à l'aise,
comme ça. Clopes, hein.
Baseball,
ah ouais, ça s'appelle les clopes.
Baseball, 4e, Vincent. Juan Soto.
Non, non, mais attention, baseball, il y a des contrats de 500, 600 millions de dollars sur quelques années. Hein.
Ouais.
Nous, on ne s'en rend pas compte parce que c'est pas du tout.
Il y a du cricket dedans.
Mais c'est aussi bien payé que le basket, que le football américain. Ce qui est moins payé aux États-Unis, un peu moins, mais enfin, il y a des énormes contrats aussi, c'est le hockey. Mais c'est un peu moins payé.
Ouais, ça, le football américain, c'est qui le premier, tu sais?
J'ai du Patrick Mahomes, mais 80 Mahomes, millions.
Patrick Mahomes, ouais. 80 millions, mais ouais. surtout contrat de presque un milliard avec les primes
sur la durée,
presque un milliard sur 7, ouais. Sur 7 ou 8 ans.
Ah ouais,
c'est quand même de lourd, hein, papa.
C'est du lourd, papa.
Mais le hockey, un peu moins payé, mais enfin, bon, il y a des.
Le premier joueur de golf, tu me demandais, c'est John Rahm, 100 millions de dollars.
Parce qu'il est parti sur le livre.
C'est une ligue qui rapporte.
T'imagines, toi, ton petit, quoi, ça rate, peut-être qu'un jour, il va gagner 100 millions.
Le petit, il va gagner 100 millions.
Ton fils joue au golf, ça.
On lui souhaite.
Je vous rassure. Après, il va se fâcher avec toi. Il va me voir mardi et le mercredi. Je vous écouterai, puis je
viendrai plus. Mais encore faut-il.
Je vous écouterai, promis.
Encore faut-il qu'il se fâche pas comme chez les Beckham, Sarah.
Mais oui, c'est pas ça.
Oui, t'as raison, absolument. Absolument.
Là tu deviens folle, tu t'habilles avec les trucs là, discrètes là, tu sais le truc de Beckham là, les dessous là, comment ça s'appelle?
Victoria's Secret.
On a vu la
l'association d'idées incroyables.
Victoria's Discrète.
Victoria's L'émission est cramée complète.
Mais non, mais je me souviens plus, je savais qu'il y avait discrète là.
Ce qui est génial, Pierrot, c'est qu'on passe des sous-vêtements de Victoria Beckham, Victoria's Secret. Et dans 2 minutes, on rejoint. On reçoit les dirigeants du rugby français.
Qui l'appelle Florent.
Dans un instant, ils arrivent avec leur convention sous le bras. Florian Grip, président de la Fédé.
Bon.
Yann Roubert, président de la LNR, ont renouvelé leur convention pour jusqu'à 2031. Donc les deux prochaines Coupes du Monde. On en débat tout de suite avec vous au 32-16 sur RMC. Et surtout, on va vous expliquer le plan pour gagner la Coupe du Monde. A tout de suite.
The Map. 15h56, le Super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h,
le Super Moscato Show.